Chers frères et sœurs, Dieu n'habite pas dans des temples façonnés par la main de l'homme. À la Pentecôte, Dieu descend sur les croyants. La présence de Dieu devient directement accessible pour chaque disciple. Et il s'agit sans doute de l'un des grands retournements du Nouveau Testament. Dieu n'habite pas des temples façonnés par l'homme, mais il habite par sa présence chaque croyant. Toute personne qui se tourne vers Dieu, qui place sa foi en Jésus-Christ, est remplie du Saint-Esprit. À chaque moment, à chaque instant, nous sommes accompagnés par la présence de Dieu. Voilà une information, une nouvelle, une affirmation qui doit transformer notre façon de vivre, transformer notre façon de voir les choses. Et tout d'abord, cette présence, elle produit un attachement nouveau à Dieu. Désormais, Dieu n'est pas quelqu'un de lointain, d'extérieur, d'éloigné, mais Dieu est proche. Et cette promesse de l'Esprit, cette promesse que Stéphanie nous a lue, au moment où les disciples se questionnent sur « Est-ce maintenant le moment où tu viendras établir ton royaume ?» Jésus leur répond « Mais arrêtez de me poser cette question. Ça fait sûrement 3 ans que vous me la posez. » Mais plutôt, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce témoignage qui commence à Jérusalem, qui part en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est ce qu'on appelle un verset programmatique. C'est-à-dire qu'il annonce le programme du livre des Actes. Dieu, après l'ascension et depuis la Pentecôte, veut déverser son esprit sur les croyants. Et donc cette promesse qui nous est faite est presque également un commandement. C'est une promesse obligatoire. Et donc face à cette nouvelle réalité, face à ce Dieu qui déverse son esprit sur les croyants, 2 attitudes se révèlent: se soumettre ou résister. Cette promesse est pour vous et moi, accueillons-la. Et ce matin, nous nous tournons vers Étienne. Étienne, par-dessus tout, nous est présenté comme l'exemple même d'un croyant qui est rempli par l'Esprit. Et donc, nous lisons Actes au chapitre 7. Homme réfractaire, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Lequel des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécuté? Et ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, et c'est lui que vous avez fait maintenant arrêter et dont vous êtes devenus les meurtriers. Vous qui avez la loi par l'intermédiaire des anges et qui ne l'avez pas gardée. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et dit « La gloire de Dieu » et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements, les vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saül. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait et disait « Seigneur, accueille mon esprit ». Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché ». Après avoir dit cela, il s'endormit. Saül approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saül, il cherchait à détruire l'Église, il pénétrait dans les maisons, arrachait hommes et femmes et les jetait en prison. Voilà face au récit du premier martyr, du premier croyant qui a été au bout de ce que veut dire donner sa vie pour Jésus-Christ. Et c'est marquant que Étienne soit un croyant ordinaire. Étienne n'est pas un apôtre. Étienne est un croyant qui vient tout juste d'être choisi pour être diacre, parce que justement, il était rempli de l'Esprit. Les pères de l'Église, lorsqu'ils parlaient du martyr, ils parlaient de ce qu'ils appelaient le baptême de sang. Là où le baptême d'eau témoigne de notre identification à la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Étienne, lui, au travers du martyr, a été uni à son Seigneur jusque dans une mort réelle et concrète. Il a été au bout. Mais ce qui est frappant chez Étienne, plus que sa mort, c'est sa vie. Le livre des Actes nous le présente à trois reprises comme un homme rempli du Saint-Esprit. Et c'est d'ailleurs sur ce critère qu'il va être choisi comme diacre. Et donc, à toutes celles et ceux qui se questionnent sur à quoi ressemble quelqu'un rempli du Saint-Esprit, Étienne en est l'exemple par excellence. Et ce qu'on voit bien au travers d'Étienne, c'est que trop souvent, nous avons tendance à considérer être rempli du Saint-Esprit comme une expérience, comme un événement ponctuel, comme quelque chose qu'on vivrait une fois. Alors qu'ici, avec Étienne, on voit bien qu'être rempli du Saint-Esprit parle du quotidien, parle d'un mode de vie, d'un style de vie, d'une façon de se comporter. Et donc on voit bien entendu les signes et les prodiges derrière la prédication d'Étienne, que le début du chapitre nous dit, mais on voit aussi et surtout l'aspect central de quelqu'un qui est rempli de l'Esprit, c'est que c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Lorsque Dieu descend sur un croyant, sur le croyant, et que nous devenons le temple du Saint-Esprit, il s'opère une proximité, une intimité, un attachement nouveau à Dieu. Parce que je sais que Dieu est constamment auprès de moi. Et donc forcément, face à ce Dieu, j'ai envie de l'écouter. Écouter ce que Dieu me dit. Et c'est bien là la différence entre Étienne et ceux qui vont le tuer. Donc c'est les membres du Sanhédrin, on parle même de la synagogue des affranchis. Il nous est dit que lorsque Étienne leur annonce qu'il voit le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu, il se bouche les oreilles. Ils n'arrivent pas à entendre, ils ne veulent pas entendre le message de l'Évangile. Et donc, ce qui nous montre l'élément que je veux mettre en avant, c'est lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on se met à écouter Dieu, mais plus que juste entendre, écouter, c'est-à-dire mettre en pratique sa parole. Et là, il est frappant de constater que Étienne est le seul disciple à parler de Jésus comme du Fils de l'homme. Dans les évangiles, à chaque fois que Jésus, c'est Jésus à chaque fois qui parle de lui-même comme du Fils de l'homme. Et en fait, il s'agit d'une citation. Une citation de Daniel 7. Et je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais Daniel 7, c'est la partie des visions du prophète Daniel. Et c'est notamment cette vision des quatre bêtes successives qui finissent par être détruites et remplacées par le Fils de l'homme. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Au moment où Étienne parle, lors du ministère de Jésus, Jérusalem, la région, est là sous la domination romaine. Ils vivent sous l'oppression de Rome. Et en fait, ces prophéties qu'on trouve dans Daniel, qu'on rapproche à des prophéties apocalyptiques, foisonnent justement dans ces temps d'oppression. En somme, le discours apocalyptique utilise des symboles pour pouvoir annoncer des vérités pour que le pouvoir dominant ne les comprenne pas, pour que Rome ne comprenne pas le message. Et donc, au milieu de cette oppression romaine, tout le monde sait qui est le Fils de l'homme. Tout le monde sait que Étienne fait référence à Daniel 7. Et tout le monde sait surtout que la domination dans Daniel 7 est donnée à ce Fils de l'homme pour régner, juger et conduire le peuple. Et donc, au travers de cette citation, Étienne annonce que Jésus, celui que vous venez de condamner et de tuer, celui-là est le Fils de l'homme. Voilà ce que les membres du Sanhédrin n'arrivent pas à entendre. Ils n'arrivent pas à entendre que celui qu'ils viennent d'exécuter est effectivement le Fils de Dieu. Un troisième groupe de personnes est étrangement absent de ce récit. Et il s'agit des apôtres. Et c'est quand même frappant, le premier martyr n'est pas un apôtre. Le premier homme ou femme à donner sa vie concrètement et réellement pour Jésus n'est pas un apôtre. Et bien plus, le martyr d'Étienne enclenche une série de persécutions, la première persécution de l'Église, où les croyants vont être pourchassés dans tout Jérusalem, et ça va produire une dispersion. Et le texte nous dit « Tous les croyants se dispersèrent dans les différentes régions de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. » Et c'est intéressant parce que de cette dispersion va naître la première expansion du christianisme et surtout la première réalisation de la fameuse promesse de Actes 1:8, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Les apôtres, on a presque l'impression en lisant le texte, passent à côté de la première expansion de la foi. Et c'est Étienne, un diacre, et plus tard Philippe, également un diacre, qui iront annoncer la parole, non seulement à l'Éthiopien, mais également en Samarie. on a presque l'impression que les apôtres ratent la coche. Et est-ce que ça doit nous démontrer ici le fait que ce ne soient pas les apôtres qui portent l'Église, ou plutôt l'expansion de l'Église à ce moment-là, c'est que Dieu dépasse nos cadres et nos structures. Étienne finit avec cette parole qui pour moi est absolument centrale. Dieu n'habite pas dans des temples façonnés par la main de l'homme. Depuis la Pentecôte, nous vivons notre foi avec cette certitude que Dieu n'habite pas ce que l'homme construit. Alors nous avons une magnifique chapelle, mais nous savons que Dieu n'habite pas les murs de cette chapelle. Dieu habite les croyants qui s'y réunissent. Mais de la même manière, Dieu n'habite pas les structures d'autorité que nous construisons. Dieu n'habite pas les projets que nous formons dans notre cœur. Dieu habite des personnes. Dieu habite des croyants. Voilà le message révolutionnaire de la Pentecôte. Et ce message-là doit placer la personne, le croyant, l'individu au centre de la foi. Parce que nous savons que chaque frère et sœur est le temple du Saint-Esprit. Et c'est bien là le problème des membres du Sanhédrin. Ils placent leur confiance dans la loi, ils placent leur confiance dans le temple. Ils accusent Étienne d'annoncer la destruction du temple. Donc c'est sur ce motif-là qu'Étienne est arrêté. Mais en essayant de protéger le temple, il tue Étienne, celui qui est effectivement le temple du Saint-Esprit. Vous voyez l'ironie de ce texte ? En cherchant à préserver ce que l'homme a construit, ils détruisent ce que Dieu crée. Être rempli du Saint-Esprit, c'est avoir cette communion, cette proximité avec Dieu. C'est écouter Dieu, recevoir ses paroles lorsque Dieu annonce appel à la repentance, lorsque Dieu annonce le pardon, c'est croire ce pardon. C'est croire ces promesses que Dieu affirme. C'est croire que Dieu remplit chaque croyant. Mais c'est aussi comprendre que Dieu n'habite pas ce que nous construisons. Et je vous en avais déjà parlé, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup la pierre. La pierre, c'est joli, et par-dessus tout, des fois, je me prends au jeu de lire, enfin de regarder des vidéos sur YouTube de gens qui rénovent des maisons en pierre. Je sais pas, je trouve que la pierre, elle a quelque chose de fort. Et j'ai l'impression que ça vient un peu de cette pierre de ce souhait qui nous habite de bâtir des choses qui durent pour l'éternité. Et j'ai téléchargé des histoires pour les enfants à mon fils, et il y avait en particulier ce récit de Babel. Vous savez, ce récit de Babel où, juste après Noé, juste après que Dieu dise à Noé « Multipliez-vous et remplissez la terre », l'être humain se met à construire une ville avec une tour pour éviter de se disperser. L'être humain va contre l'ordre, le commandement que Dieu vient de donner de se disperser et cherche à ce que tous les êtres humains restent ensemble. Et Dieu, dans Babel, donc, va disperser les gens on parle de la confusion des langues, il va y avoir une diversité de langues et les gens ne se comprendront plus. Mais combien de fois, dans notre, même dans notre vie de foi, cherchons-nous à bâtir des babels? Et c'est vrai que ça m'a... Je ne suis pas arrivé au bout, mais ça m'a questionné. On cherche à bâtir de grandes églises avec un nom renommé, avec une jolie tour, avec de beaux locaux, des choses énormes, justement pour éviter que les croyants se dispersent. Mais Dieu ne nous appelle-t-il pas justement à nous disperser ? Dieu n'utilise-t-il pas de temps en temps la confusion des langues pour nous forcer à nous disperser un peu ? Passons. L'important ici, c'est de comprendre que quoi que nous construisons, Dieu ne l'habite pas. Mais Dieu habite des temples et il s'agit des croyants. Et cet aspect est absolument significatif, notamment pour notre vie d'église. Parce que ça veut dire que chaque frère et sœur est le temple de l'Esprit de Dieu. Chaque personne qui vient, chaque personne qui place sa foi en Dieu est le temple du Saint-Esprit. Et donc, ceci nous force à reconsidérer le sacré et le profane. Le sacré et le profane, c'est... Le sacré représente ce qui est mis à part par Dieu pour son service. Et donc, on consacrait de l'huile, de l'eau, on consacrait plein de choses, des bâtiments, on consacre plein de choses pour le service de Dieu. Mais depuis la Pentecôte, ce ne sont plus des choses, ce ne sont plus des pierres, des murs, ce ne sont plus des rôles, des fonctions qui sont consacrés, qui sont sacrés. Mais c'est le croyant. Mon frère et ma sœur est pourvu d'une dignité parce qu'elle est le temple du Saint-Esprit. Et donc évitons de faire comme cette fameuse synagogue des affranchis, là, comme il s'appelle. Et prenons garde qu'en voulant protéger le temple de Dieu, nous ne finissions par le détruire. Mais accueillons cette promesse de l'Esprit qui est déversée, cet Esprit de Dieu, cette présence de Dieu qui est proche, qui parle, que nous pouvons écouter. Et soyons renouvelés par cette présence. Amen.